France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Si donc la politique s'est invitée dans l'Euro de football, à moins que ce soit le contraire. Il y a d'abord eu les genoux à terre, et puis cette histoire de stade aux couleurs LGBT+, qui déclenche même une polémique européenne à large spectre. Le mantra, habituellement, c'est de dire que le sport et la politique ne vont pas ensemble, qu'il faut que les sportifs jouent et que la politique se déroule, et qu'entre deux, la cloison soit hermétique. Sauf que, si on y regarde bien, la politique et le sport n'ont jamais été totalement opposés. On pourrait remonter jusqu'au JO de 1936, jusqu'à Mohamed Ali, un peu plus près de nous, jusqu'au point levé de 68, au Black Lives Matter évidemment très récemment. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle poussée, c'est que on ne parle pas de deux pays qui jouent à la guerre froide par sportifs interposés, comme ça a déjà été le cas. On parle de défendre des valeurs universelles, on parle moins de politique que de sujets sociaux qui secouent toutes les sociétés. Comment le sport pourrait-il passer à côté? Le racisme est-il un sujet politique? La discrimination sur l'orientation sexuelle est-elle un sujet politique? Les droits de l'homme sont-ils un sujet politique? Les joueurs de foot en l'occurrence, ce sont des jeunes gens dans leur époque. La figure du footballeur, elle a changé, pas partout, pas tout le temps. Mais quand l'équipe de Norvège écrit Human Rights sur son maillot le 24 mars avant un match de qualification pour le Qatar, quand Griezmann fait la une de têtu ou refuse son sponsor Huawei pour lutter contre l'oppression des Ouïghours, est-ce que leur visibilité ne fait pas faire un pas de géant aux causes défendues? Est-ce que, dans le cas qui nous intéresse en ce moment, ça n'est pas l'UEFA qui est en retard sur une société qui bouge et qui avance? Est-ce que le sport ne doit pas afficher les valeurs qu'il défend? Choisis ton camp, camarade. Est-ce que les instances du foot, notamment, pas seulement du foot d'ailleurs, mais enfin c'est le sport roi, est-ce que ces instances-là n'ont pas un train de retard tout simplement à la remorque d'une société en mouvement? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tout se sait, tout se voit, tout se commente sur les réseaux sociaux, le foot et le sport ne doivent-ils faire semblant de ne rien savoir de ce qui se passe en dehors des stades? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, c'est vous, Patrice. Soyez le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Patrice.
Eh bien, on a déjà vu que les régimes autoritaires, les dictatures utilisent sournoisement le sport comme propagande nationaliste. Je me demande pourquoi le sport devrait être le seul domaine qui s'affranchisse d'une réflexion des droits de l'homme et des minorités. Ça peut être une occasion magnifique de rappeler l'universalité de la Déclaration universelle de 48, l'amitié entre les peuples. Je pense qu'il ne suffit pas d'être signataire de la Déclaration universelle. Encore faut-il la promouvoir. Parce que, puisqu'on parle de défendre les droits de l'homme, il me semble impossible, indécent de ne pas évoquer ce que vous venez d'évoquer à l'instant, c'est-à-dire le mondial au Qatar, qui va se dérouler dans un pays qui a réduit en esclavage les Asiatiques, notamment des Népalais, occasionné plusieurs centaines de morts pour construire les stades. Les aires de jeu sont devenues des aires de mort. Alors si on argumente les différentes rencontres qui se sont déroulées depuis des décennies dans des dictatures, il ne faut pas oublier que c'est précisément pour le sport que ces pauvres types sont morts. Mmh. Et il me semble inadmissible que des joueurs s'adonnent à des pratiques sur des cadavres de pauvres types. Donc accepter le mondial au Qatar, c'est être complice d'une organisation criminelle. Il faut changer de pays.
Merci beaucoup Patrice pour cette remarque et ce démarrage de téléphone sonne pour parler autour de cette table et jusqu'à 20h ensemble. Carole Gomez est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste de géopolitique du sport, et Paul Yetchi est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Bourgogne, Franche-Comté, spécialiste de l'histoire du football. Sur ce que dit Patrice, Paul Yetchi, d'abord il y a une chose qui est vraie, les pays utilisent aussi le sport eux-mêmes. Et donc, il a raison de vouloir nous retourner la question. Pourquoi les sportifs n'utiliseraient pas leur sport pour parler de choses qui sont extrasportives, quand de toute façon, les pays le font avec leurs propres équipes? Et c'est le cas aussi en ce moment, d'ailleurs.
Oui, mais les sportifs ont pu le faire. Enfin, une minorité, l'a fait. Bon, pendant la guerre d'Algérie, par exemple, vous avez les meilleurs footballeurs algériens qui ont quitté leur club pour créer une équipe d'Algérie et faire la promotion de la cause algérienne pendant 4 ans, entre 1958 et 62. Pendant la Coupe du Monde 78, on ne se rappelle pas que Rocheteau et quelques joueurs français, pas tous, ont voulu protester contre la dictature argentine. Donc il ne faut pas considérer les sportifs comme des idiots des gens qui ne sont sans conscience. Il y a un certain nombre de sportifs quand même qui l'ont fait. Alors certes, ils ont eu aussi maille à partir avec les organisations sportives qui, alors, il faut pas forcément les voir comme des organisations absolument aveugles ou réactionnaires. C'est que Ce qui est en jeu dans le sport international, c'est avec qui on va faire du sport. Mmh. Et donc, si on veut un sport qui soit international mondial, ça veut dire que on va jouer avec des athlètes, des footballeurs qui représentent des pays qui n'ont pas nos valeurs, qui sont des dictatures. Donc, très bien, on peut choisir, évidemment, de faire du sport uniquement entre démocratie, entre pays qui ne sont pas corrompus, mmh. mais ça va réduire fortement le spectre, finalement, du football et du sport international.
Là, on parle, par exemple, de l'euro en ce moment. Donc on pourrait se dire que quand on est réduit sur ce territoire-là, il y a peut-être quelque chose à jouer, Carole Gomez, qui est différent d'une énorme compétition. Alors cela dit, on parle d'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, comme dirait le général de Gaulle, on ne parle pas des 27 pays de l'Union, hein,
tout à fait.
Ça soit bien clair.
Oui, tout à fait. Effectivement, il est important de rappeler que cet euro est organisé, fait participer un certain nombre d'équipes qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. Et d'ailleurs, il y a une spécificité à cet euro-là et qui renforce le caractère extrêmement politique de cet euro, c'est qu'il se situe dans 11 villes mmh. de 10 pays différents. Donc mmh. ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez un match qui se déroule, vous avez un contexte politique, un contexte social très particulier, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a pu voir au cours de ce début d'euro un certain nombre de polémiques sur des sifflets de supporters dans les stades, sur des contextes politique avec l'illumination du stade de Munich qui n'a pas été acceptée par l'UEFA, mais ça on en reparlera. Ouais. Et donc ça multiplie d'autant plus le potentiel fortement géopolitique de ces rencontres et de ce que l'on peut en déduire.
Alors on va reparler effectivement de ces sifflets et bien sûr de la couleur du stade, mais dans la suite de la question de Patrice, moi ce que je trouve intéressant, cela dit, c'est que il y a effectivement des polémiques sur couleur LGBT ou pas couleur LGBT. Il y en a qui portent effectivement un brassard pour dire des choses. Il y a eu des genoux à terre, il y a eu des choses comme ça. Le Qatar, c'est encore une autre mayonnaise, quoi qu'on en pense. Et je me suis dit les joueurs norvégiens tout à l'heure, pardon de le dire comme ça pour les joueurs norvégiens, mais il n'y a pas beaucoup d'enjeux quand on est joueur norvégien dans une compétition de ce genre-là. Là, il n'y aura pas photo, Carole Gomez. Elle aura lieu, cette Coupe du Monde.
Oui.
Et tout le monde se taira. Et il est bien là aussi, le grand paradoxe.
Alors, pour le coup, à mon sens, et ça n'engage que moi, je pense effectivement que cette Coupe du Monde aura lieu. Il y a eu énormément de campagnes pour le boycott de cette Coupe du Monde. Dès le lendemain de l'attribution qui est intervenue en décembre 2010, il y a eu une mobilisation extrêmement forte d'un certain nombre de journaux, de collectifs, pour justement appeler à un appel au boycott, qui, à mon sens, ne pourra pas se réaliser pour un certain nombre de raisons, et aussi parce que le modèle que l'on donne, c'est systématiquement Moscou ou Los Angeles. Or, on n'est plus du tout dans une même logique. En revanche, et ça fait référence à ce que disait Patrice, c'était aussi l'importance que peuvent avoir les joueurs pour faire passer un certain nombre de messages. Mmh. Vous citiez l'équipe de Norvège qui avait pris position, ça n'était pas la seule. Mmh. Elle a été suivie par l'équipe d'Allemagne, elle a été suivie par l'équipe des Pays-Bas, qui pour le coup sont des équipes qui ont, au regard de leurs résultats, pourront défendre leurs couleurs à ce niveau-là.
Et donc, mais ils vont y aller.
Et logiquement, alors si les éliminatoires se passent correctement et qu'il n'y ait pas de surprise, comme ça avait été le cas lors des années précédentes, oui, logiquement, elles devraient représenter. Et donc, il sera vraiment intéressant de suivre la position de ces joueurs qui, rappelons-le, et pour rebondir sur ce que disait Paul Dietschy tout à l'heure, il y avait aussi une vraie volonté aujourd'hui de un peu prendre la distance avec une interdiction qui leur a été faite depuis qu'ils sont très jeunes de ne pas se prononcer sur les questions de politique. Tout simplement parce que on nous a répété que le sport était apolitique, qu'il ne fallait pas mélanger politique et sport, et que c'était des valeurs de neutralité que vous alliez donner. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus prendre un peu de largesse par rapport à ces éléments-là, et surtout aussi parce que aujourd'hui il n'y a plus de risque de sanction contre ces joueurs, ce qui était le cas auparavant. Vous citiez le point levé de
Tommy Smith, et pour le coup, les trois qui étaient sur le podium.
Donc, Colin Kaepernick en 2016, au bout de quelques mois, n'a pas retrouvé de club. Et donc il y a aussi cet élément de sanction qui aujourd'hui ne me semble plus forcément tout à fait présent, puisque l'UEFA, la FIFA, un certain nombre de fédérations internationales ont considéré qu'il pouvait y avoir des messages politiques, un genou à terre, un brassard, qui pouvaient être portés sans que cela ne pose de problème à l'institution.
Paul Dietschy.
Oui, moi je vais me faire l'avocat du diable.
Vous en prie.
Je trouve que dans ces histoires-là, il y a deux poids, deux mesures. À Doha, quand on connaît Doha, il y a un très beau musée qui s'appelle le musée des arts islamiques, qui a été fait par Jean-Michel Villemotte et l'architecte Pei. Il y a le musée national qatari. Il y a des grands centres commerciaux comme Villaggio. Est-ce que on a été demandé quelles ont été les conditions de construction de ces édifices? Non, c'est toujours quand même, me semble-t-il, le football qui a bon dos et qui paye, alors que de très, si vous allez à Viaggio, vous avez la plupart des grandes marques françaises qui sont là. Est-ce qu'on leur demande des comptes? Non, jamais. À ce moment-là, il faut aussi arrêter d'acheter du gaz au Qatar. Oui. Et puis surtout, il faut surtout expulser les actionnaires qataris du PSG, hein, parce que
l'argent du Qatar, il
vient de ce système-là.
Évidemment.
Donc, je crois qu'il faut quand même être attentif à essayer de voir les choses dans leur complexité.
Après, il y a une chose que je trouve intéressante en ce moment, Carole Gomez, mais vous aussi, vous pourrez répondre, Paul Dietschy, c'est que il se passe quelque chose avec les sponsors. On est bien d'accord que lorsque Griezmann décide de que Huawei n'est plus son sponsor parce que il connaît la situation des Ouïghours, ça peut jouer d'une certaine façon. Mais certains sponsors aussi, je pense à des marques de chaussures par exemple, ont désormais une politique qui parle d'un certain nombre de valeurs, etc. Donc encourage aussi avoir ce genre de prise de position, non, Carole Gomez? Quelque chose a changé. Et j'irai même plus loin. Qu'est-ce qui se passe si désormais, dans un stade de Coupe du Monde, un grand sponsor décide qu'il n'y va pas? Ça veut dire beaucoup d'argent qui ne vient pas non plus. Donc, est-ce que ça aussi, ça fait vraiment bouger les lignes en ce moment ou pas?
Oui, alors en fait, c'est intéressant parce que là, au cours des dernières années, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Et l'écosystème sportif qui existait jusqu'à présent, avec une toute puissance des organisations sportives et des États, est en train un peu de voir émerger un certain nombre d'acteurs de plus en plus puissants. Les sponsors avec un intérêt purement commercial, enfin c'est leur, en même temps ils sont aussi là pour ça, qui arrivent à faire passer un certain nombre de messages. Et sur cette situation et sur la question des sponsors, notamment dans le cadre de 7 euros, j'arrive pas véritablement à savoir comment est-ce que les choses s'organisent les unes avec les autres, qui prend le dessus sur l'autre. Quand vous avez Cristiano Ronaldo qui décale ses bouteilles de coca et qui entraîne une chute dans la bourse de près de 1,2% si ma mémoire est bonne.
Et qui se fait taper sur les doigts d'ailleurs, parce qu'on lui dit, dites donc, sponsor. Bon, par ailleurs, je crois que Ronaldo a fait une pub pour cette même marque il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là aussi, restons sur un
paradoxe. C'était le mot que vous preniez tout à l'heure.
Absolument, c'est le moins qu'on puisse dire.
Il faut voir la nature des sponsors. Un des sponsors de l'euro, c'est quand même Gazprom. Il ne semble pas que Gazprom promeuve quand même les droits humains. Et puis par ailleurs, l'essentiel des revenus, c'est pas les sponsors, ce sont les droits télé. Donc à ce moment-là, il faut peut-être que les amateurs de foot arrêtent de regarder les matchs de ces compétitions s'ils veulent vraiment protester contre les régimes qui organisent ces compétitions.
Ce qui sera la question qu'on posera à tous les grands amateurs de foot avant le début de cette compétition, qu'on ne posait jamais avant les précédentes, et qu'on fera effectivement avec le Qatar, probablement, tout en se donnant bonne conscience, pardon Carole Gomez, en faisant probablement des sujets précédemment dans les télévisions sur la manière dont les stades ont été construits avant la retransmission.
Oui, complètement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu émerger, notamment au moment, juste après l'enquête du Guardian, qui a justement mis en avant le nombre de décès au Qatar de travailleurs étrangers, alors qui avaient été titrés sur les chantiers de la Coupe du Monde, même si on se rend compte, en regardant la méthodologie, que c'est bien plus compliqué que ça, et que les chiffres ne sont pas aussi importants que ça, même si ça reste des chiffres qui sont assez terribles. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a eu une espèce de pirouette qui a été faite en disant, est-ce que vous, en tant que fan de football, est-ce que vous accepterez de ne pas regarder, de vous priver de ce spectacle-là? Et pour le coup, je ne suis pas certaine que ce soit quelque chose qui soit suivi, que ce boycott médiatique se mette en place. Et par ailleurs, je rappelle aussi qu'en 2022, ça va être une année particulièrement intéressante à suivre, puisque si tout le monde est focalisé à juste titre sur la Coupe du Monde masculine du Qatar en novembre-décembre 2022, il y aura aussi les Jeux Olympiques et Paralympiques à Pékin en début d'année, qui là aussi vont être, à n'en pas douter, un élément intéressant à suivre d'un point de vue politique et géopolitique.
Bonsoir Victor.
Bonsoir.
On vous écoute Victor.
Bonsoir, oui, pour moi je suis professeur d'éducation physique à la retraite, mais je considère que le sport, l'activité physique et sportive sont des activités tout à fait politiques, qu'elles participent au bien-être social et que ce sont des phénomènes sociaux globaux. Donc, de ce point de vue-là, il faut mettre les moyens. Les moyens, on les a pas. On va les chercher justement avec le sponsorat, comme ça a été signalé par Carole Gomez. Mais moi, je considère que il faut que les États s'impliquent mieux la promotion de l'éducation physique et du sport. En France, pour la préparation des Jeux Olympiques de 2024, il faudrait par exemple qu'on recrute 45 000 profs d'éducation physique dans les écoles primaires. Le budget de l'ESS Sport est une peau de chagrin, puisque Mme Maracineanu, à nous, si elle avait à financer un transfert de Mbappé du Paris Saint-Germain à Madrid, il faudrait 600 millions d'euros. Or, son budget est inférieur à 400 millions d'euros. Mmh. Donc je pense que de tous ces points de vue-là, le sport est éminemment politique et qu'il faut arrêter de penser que les sportifs sont des citoyens de seconde zone. Ils doivent exercer leur pleine responsabilité dans tous ces domaines.
Et vous avez autour de la table, Victor, merci beaucoup des invités qui font oui avec la tête. Évidemment que tout est politique, Paul Dietschy, de toute façon.
Oui, et particulièrement en France. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. D'abord, les professeurs d'éducation physique, ils ne sont pas payé par la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est une autre chose. Mmh. La France est un des pays, quand même, qui, depuis les années 1960, a fait un gros effort d'équipement, a fait un gros effort de recrutement de ses enseignants. Vous avez beaucoup de facultés, de STAPS, dans toute la France. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'on soit absolument le plus mal loti. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette politique sportive. Est-ce que c'est une machine à champions pour être dans le tableau des médailles, mmh. et c'est un petit peu l'objectif de 2024, c'est clair, mmh. est-ce que c'est véritablement pour, alors, sinon créer une nation sportive, du moins lutter contre un certain nombre de maux sociaux, et mmh. notamment la question du surpoids, la mmh. question de la sédentarité, la question de l'éducation. Ça, évidemment, c'est une question qui est importante. Il y a des moyens quand même qui sont mis en œuvre, mais peut-être il faudrait davantage d'heures d'éducation physique à l'école, mais c'est aussi une question de culture. Hein. Mmh. Et pour terminer, quand l'équipe de France de football a pour sponsor une marque de fast-food du mmh. sud des États-Unis, mmh. ce n'est pas le meilleur exemple qui est donné.
Le comité international olympique, enfin les Jeux olympiques sont censés aussi être des transmetteurs de valeurs. Hein. C'est ça que sont les Jeux olympiques théoriquement, c'est pour ça qu'ils ont été créés. Quand on parle de ça, est-ce qu'on confond pas aussi beaucoup de choses? Quand on parle de cet euro par exemple, l'UEFA en soi, c'est jamais que des organisateurs en fait, au fond. Faudrait-il? Est-ce que ça changerait quelque chose si au fond, y compris dans ce genre de compétition, on mettait en exergue ce qu'on met en avant sur les Jeux Olympiques, sur les valeurs qui sont les valeurs du sport. Alors non pas que les Jeux Olympiques soient exempts de toute chose amorale, donc je dis ça en même temps, j'y crois qu'à moitié en même temps que je vous pose la question. Mais enfin, pourquoi pas le mettre en exergue à un moment, non ? Ben,
pour le coup, effectivement, et vous avez raison de le signaler, on est dans deux logiques, logiques différentes, où l'UEFA est une association, certes, de droit suisse, toujours, mais dont l'objectif est de organiser, financer et faire tourner la machine à travers un certain nombre de compétitions, soit compétition de clubs, soit compétition de nations. Et donc effectivement, il y a aussi, et ça on l'a, je trouve, bien retrouvé dans le communiqué qui a pu être publié hier, avec justement le fait qu'à la fois ils revendiquaient des valeurs qu'ils sont en train de diffuser, mais ils reprochaient à un stade et à une ville de vouloir prendre une décision politique dans un même temps, se parant d'un drapeau arc-en-ciel sur ses logos, mm-hmm. et en ayant son président Alexander Seferin qui faisait un communiqué de presse un peu ubuesque en considérant que c'était quelque chose qui ne fallait pas que les politiques populistes reprennent le dessus. Mmh, donc ce qui voudrait dire qu'en un espace-temps d'une après-midi, on a eu trois directions différentes qui ont été abordées par l'UEFA.
Mais je pense qu'ils n'ont rien compris en fait. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'ils ont été complètement dépassés par quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Je ne veux pas faire de caricature, mais les patrons de l'UEFA sont des vieux messieurs. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas 30 ans, enfin tous, hein, c'est 55 pays, donc combien?
55,
c'est ça. Donc pas tous, mais enfin il y a quelque chose d'assez loin peut-être des préoccupations d'un Mbappé, d'un Griezmann et de ceux qui regardent la télé.
Alors une des hypothèses qui est aussi envisagée, c'est celle de considérer qu'ils étaient un certain nombre d'entre eux, un certain nombre des directions des relations internationales et de la stratégie étaient vraiment focalisées sur une organisation dans 11 villes différentes qui est du jamais vu en termes d'organisation. Donc en termes logistiques, c'est un défi monstrueux à réaliser. Et d'autre part,
on parlait de post-Covid,
vous avez une crise sanitaire internationale à devoir gérer. Ce qui, du coup, met le focus, la focale, sur ces deux éléments-là. Et donc, effectivement, cet élément qui est arrivé et qui a pris... Enfin, il y a vraiment une allumette qui a été jetée sur la flaque d'huile et qui a pris en l'espace de quelques minutes, avec surtout un emballement aussi côté de la Hongrie, mais également côté allemand, qui ensuite a été complètement récupéré. On a vu des chefs de gouvernement, chefs d'État, Ursula von der Leyen,
c'est au menu de discussion de
exactement,
ce soir.
Donc, exactement.
Oui, moi, juste je voulais ajouter quelque chose, c'est que il faut connaître l'histoire de l'UEFA. C'est une organisation qui a été créée en 54, qui pendant très longtemps a été marquée par la guerre froide. Donc je pense que chez les dirigeants, il y a l'idée aussi d'éviter une nouvelle séparation entre deux Europes. Et c'est vrai que la Hongrie, ça fait partie de cette autre Europe qui n'a pas été, enfin, ou qui a peut-être été jamais démocratique. L'autre aspect important, c'est la question des valeurs. C'est que si on regarde les statuts de la FIFA, de l'UEFA, l'UEFA veut éradiquer le racisme. Donc je pense que les dirigeants, ils sont plus focalisés sur cette question du racisme que celle des autres discriminations. Donc en ce sens, peut-être, ils ont un petit train de retard.
Eh bien, je pense que je vais aller même plus loin que vous. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de lutter contre le racisme que contre la discrimination LGBT+, parce que c'est bien ce qu'on voit d'ailleurs, y compris à l'échelle européenne, quand, y compris ce soir à Bruxelles, on se met contre ou pas Viktor Orban. Pardon de le dire comme ça, mais c'est très compliqué dans plusieurs pays d'Europe de lutter contre les discriminations des LGBT+.
Oui, complètement. Et pour le coup, si on sort du domaine sportif et qu'on passe sur le domaine politique, la déclaration qui a été faite par un certain nombre de représentants politiques a été signée par 17 États membres.
Exactement.
Et non pas les 27. Alors, 26,
si on 27 compte... 27 moins une, puisqu'on compte pas la Hongrie, on va dire.
Oui, d'une part. Et d'autre part, on compte pas non plus le Portugal, qui est actuellement la présidence tournante.
Exactement.
C'est plutôt une tradition que de ne pas prendre position. Mais donc, ce qui n'empêche qu'il y a quand même... Alors certes, le ratio est plutôt en faveur de cette position-là, mais il y a quand même ces éléments, ces autres pays-là, et la question est de savoir comment est-ce qu'on fait avancer les choses et comment est-ce qu'on arrive à avoir une politique commune sur le sujet. Même si, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, Paul Dietschy, effectivement, la question de la lutte contre le racisme, à mon sens, a été vraiment perçue comme essentielle depuis un certain nombre d'années, même si, à mon sens, il y a encore un travail considérable à faire sur le sujet. Ça, c'est perçu, mais ça n'empêche qu'il reste encore un peu de chemin à parcourir.
On va y venir avec une question sur le genou à terre, mais juste avant, il y a une question d'Étienne, et c'est pour vous, Paul Dietschy, je pense. Bonsoir, Étienne.
Bonsoir, Fabienne, et bonsoir à vos invités.
On vous écoute.
Donc, je voulais parler du Barça en Catalogne, qui se définit comme « més que un club », c'est-à-dire « plus qu'un club ». Donc, ils ont soutenu le référendum pour l'indépendance en 2017, et pourtant, l'UEFA trouve ça normal. Donc je voulais savoir, d'après vos invités, pourquoi ça pose question en France et dans le reste de l'Europe, alors qu'en Espagne, c'est largement admis par tous.
Merci pour cette question, Étienne. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier avec le Barça, Paul Dietschy.
Oui, parce que c'est l'âme de la Catalogne. D'abord, il y a une longue histoire là aussi. Pendant la guerre civile, le FC Barcelone a fait une tournée pour faire la promotion de la République et de la Catalogne. Donc, sous le franquisme aussi, ça a été un lieu de résistance un peu masqué au régime. Donc, il y a toute cette histoire-là. Ensuite, je pense que l'UEFA, elle va se prononcer sur autre chose, plutôt sur la question de si le FC Barcelone voulait, avec les Catalans, créer une fédération catalane. Là, les choses seraient très différentes. L'UEFA interviendrait. Pour quelle raison ? C'est que le principe, c'est qu'il y ait une fédération par État souverain ou par territoire qui ont reçu un certain degré d'autonomie. Donc là, l'UEFA interviendra. Sur des questions de politique interne, c'est pas évidemment son jeu. Et puis de toute façon, le FC Barcelone, eh bien, considère que un championnat ibérique est toujours intéressant, parce que contre qui jouer. Donc là, je pense que la question de l'UEFA, sur cette question-là, l'UEFA n'interviendra pas. En revanche, c'est sur la sortie du FC Barcelone du système fédéral sportif.
Caroline est là. Bonsoir, Caroline. Est-ce que Caroline est là ? C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on entende la question de Caroline. Mais c'est pas grave, elle reviendra plus tard. Bonjour, bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
On vous écoute, Philippe.
Le sport a toujours été pris en otage par la politique depuis des années. Maintenant, vite autour des choses. On ne va pas guider notre plaisir de voir des sportifs s'immiscer dans la politique. Parce que d'abord, les sportifs sont citoyens du monde.
Je vous entends. Attendez, Philippe, soit vous bougez un petit coup, soit je sais pas, mais on vous entend très très haché. Donc du coup, on a compris que la moitié.
Vous entendez mieux là ?
Ah ouais, un peu mieux. Allez-y, ouais.
Voilà. Donc les sportifs sont des gens comme tout le monde, sont des citoyens qui votent. Moi, j'ai fait du sport. Je suis entraîneur sportif. J'étais athlète de haut niveau. J'ai toujours voté comme tout le monde. Mon statut ne m'exonérait pas de ça. Les sportifs ont la chance d'avoir de la visibilité et de l'audition auprès du grand public. On va pas leur reprocher maintenant de prendre des positions politiques et morales. Moi, à côté de ça, je suis entraîneur de sport. Mmh. J'ai fait ça pendant 35 ans professionnellement. Je continue bénévolement. Je fais de la citoyenneté tous les jours, comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans savoir. Moi, je fais de la citoyenneté. C'est un acte politique neutre, mais un acte politique. Mmh. Je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait les sportifs qui prennent des positions. Surtout que ils s'immiscent dans la politique, mais dans pas une politique partisane, hein, dans une politique de fait de société, de conscience morale.
Et merci Philippe, et c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on compare avec les sportifs anglo-saxons, en fait, pas seulement américains, mais anglo-saxons, alors américains, n'en parlons pas, le footballeur
Colin Kaepernick.
Merci, ou Megan Rapinoe pour ce qui est du foot, etc. Ce sont des gens qui prennent même des prises de position politiques. Là, pendant la campagne, ça a été clair. En France, c'est encore autre chose. Moi, je suis assez curieuse de savoir, est-ce que vous savez ce qui se passe quand Griezmann décide ou accepte de poser pour Tétu? Comment ça se passe? En fait, c'est quoi la chaîne là-dedans? Est-ce qu'il y va tout seul? Est-ce que, j'imagine que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais est-ce que derrière, on entend, oui, aïe, alors, à quoi tu vas t'exposer? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment, à toi de jouer maintenant? Comment ça se passe, à votre avis? Parce que c'était quand même assez énorme, cette une-là.
Je veux bien commencer, mais
allez-y. Bravo.
Oui, c'est très courageux, non, parce que c'est la culture footballistique, elle est viriliste et elle est homophobe. Il faut pas
se cacher. Exactement. On clairement. Est bien d'accord.
Je pense que la position de Griezmann, elle est avantagée par le fait qu'il ne joue pas en France, qu'il joue au FC Barcelone, donc un club qui a toujours eu ses engagements. Sa femme certainement a pu jouer un rôle. C'est une influenceuse qui donc. Il y a peut-être un dialogue qui se fait. Est-ce qu'il a mesuré les risques ou les éventuellement aussi les avantages il faut aussi le dire. Je crois que là il n'a pas rompu un tabou. Le tabou, ce serait que une très grande star du football mondial dise
qui joue.
Je suis homosexuel
et qui joue.
Ouais. Là ça sera un séisme. Après, je pense que ses camarades de l'équipe de France disent de toute façon Griezmann c'est quelqu'un d'original. Bon, il a posé dans ses études. Alors que j'imagine que dans l'équipe actuelle, il n'y a pas forcément que des gens qui sont pour la tolérance, même la tolérance à l'égard des homosexuels.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. c'est plus facile, c'est horrible à le dire comme ça, mais c'est plus facile en ce moment de lutter contre le racisme dans le football que contre l'homophobie, pour les raisons que vous dites.
Totalement. Et je pense que cette position un petit peu marginale qui fait que, et il n'a fait que poser pour Tétu. Je crois que l'étape la plus importante, et certains sports sont en avance, dans le rugby, il y a quand même un grand rugbyman, Gareth Thomas, qui a joué pour les Pays de Galles, à la fin de sa carrière, qui a fait son coming out, mais en football, c'est évidemment un tabou absolu, mais peut-être aussi lié au fait de cette mondialisation du football, qui touche aussi des pays, notamment d'Afrique ou d'Asie, dans lesquels l'homosexualité est criminalisée, pourchassée, etc. Donc, il y a cette chape de plomb qui pèse encore sur le football et qui fait que moi je suis pas forcément optimiste sur cette lutte contre l'homophobie dans le football.
Ghislaine est avec nous. Bonsoir Ghislaine.
Oui, bonsoir. Alors mon intervention va un peu à l'encontre de celle de l'auditeur précédent. Donc moi je me demande pourquoi on s'interroge pas davantage sur la légitimité des prises de parole de ces footballeurs professionnels. Ils ont le droit évidemment de s'exprimer, mais on semble considérer comme un postulat acquis que leur parole a plus de poids que celle d'un citoyen quelconque. Alors liberté d'expression, d'accord, mais ce qui me gêne, moi, c'est que ce sont quand même des personnes qui acceptent de gagner des sommes considérables. Personnellement, je ne voudrais jamais gagner une somme aussi conséquente, dans la mesure où ce qui est sous-jacent, c'est l'idée que certains valent plus que d'autres. Or, il me semble qu'en démocratie, l'une des valeurs, c'est l'idée que les citoyens sont égaux. Donc, une action qui me paraîtrait intéressante de la part d'un joueur de haut niveau, ça serait de dire non, moi je ne veux pas d'un salaire de cette nature, ça induirait peut-être une réflexion sur la valorisation de tel ou tel métier. Voilà.
Merci pour votre intervention, Ghislaine Carole Gomez, là-dessus.
Ouais, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes qui ont été évoquées par Ghislaine. Alors, premier élément, on parle effectivement d'une toute petite minorité de personnes qui gagnent des salaires considérables. Il faut pas, c'est la partie émergée de l'iceberg qu'on voit le plus, qu'on entend le plus, et effectivement, mais il faut pas non plus oublier les autres joueurs, joueuses de première division, deuxième division, etc.
Et d'autres sports
évidemment,
aussi,
parce que là, le football est surmédiatisé, mais n'oublions pas les autres sports, évidemment. Premier élément. Deuxième élément, c'est pas forcément qu'on leur donne une parole d'évangile, mais c'est juste qu'il est intéressant aussi d'avoir leur ressenti du terrain, de choses qui concernent directement leur vie et leur dans le club, dans l'équipe. Et donc, il est aussi intéressant d'avoir cet avis-là, notamment quand il permet de faire avancer un certain nombre de choses. Et c'est ça qui me semble intéressant.
La caisse de résonance,
qui est considérable. Et donc, c'est aussi ça qui me semble intéressant. Et surtout que là, on les interroge pas sur le contexte géopolitique en Haut-Soudan du Sud et les tensions qui peuvent exister, c'est vraiment sur des causes spécifiques qu'ils vont prendre position et donc ils peuvent permettre par leur prise de position, par une libération de la parole, de faire avancer. À ce titre, et je rebondis sur ce qui avait été dit auparavant, le documentaire de Canal+ de la semaine dernière, Faut qu'on parle, en présentant le coming out de six sportifs de haut niveau, sportifs et sportives de haut niveau, permet aussi de donner une nouvelle caisse de résonance. Et par ailleurs, et ce sera peut-être une nuance par rapport à ce que disait Ghislaine, je suis extrêmement satisfaite et intéressée par les prises de position de ces athlètes, de sportifs de haut niveau, même si à mon sens il ne faut pas non plus considérer qu'ils vont être capables de prendre position sur absolument tous les sujets. Et un certain nombre d'anciens sportifs de haut niveau me disaient que sur certains sujets, ils ne se sentaient pas capables de porter parce qu'il y avait des tenants et aboutissants qu'ils ne maîtrisaient pas, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles ça leur paraissait trop complexe et qu'ils craignaient d'être piégés et d'être pris au piège d'un certain nombre d'éléments. Donc à la fois, il y a une libération salutaire de la parole, mais en même temps, on va pas leur demander de faire une thèse en 5 ans.
Exactement,
mais
et il y va des footballeurs, là, pour le coup, comme des acteurs, comme des chanteurs, comme tous les gens qui ont une caisse de résonance, qui peut être une grosse caisse de résonance. La question que j'ai vue passer tout à l'heure, et je croyais que l'auditrice était là, mais peu importe, m'intéressait, parce que elle demandait pourquoi les joueurs français, notamment, n'ont pas mis un genou à terre. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce que vraisemblablement, le genou à terre à Wembley, chez les Anglais, a été très applaudi. Et puis ailleurs, beaucoup moins applaudi pour le coup, et les Français ont reculé au dernier moment. Ça dit ça aussi, la prise de position. On le fait dans un environnement, on va le dire comme ça, Paul Dietich par exemple.
Oui,
il faut que l'environnement soit là, sinon ils n'y vont pas en fait.
Oui, et puis le genou à terre, ça regarde quoi? Ça regarde quand même une affaire américaine.
Qu'on peut considérer qui a été universalisé quand même.
La police française, c'est quand même pas la police américaine.
Non, non.
On tue pas tous les jours des gens dans la rue.
Et puis l'histoire
américaine, c'est pas l'histoire française, donc il faut pas tout amalgamer, me semble-t-il.
C'est devenu un geste contre le racisme, d'une manière générale, parce que encore une fois, quand les Britanniques le font, ils ont pas les mêmes soucis que les Américains.
Oui, mais ils sont plus proches du point de vue des codes des Américains. Après, je pense que l'équipe de France n'a pas voulu le faire pour ne pas susciter des polémiques importantes dans le contexte politique actuel. Je pense qu'on leur a recommandé cela à la fédération. Je ne veux pas être polémique, mais on n'a pas entendu les footballeurs français à propos de Samuel Paty. Il n'y a rien eu. Alors, on pose la question du genou à terre, mais lorsqu'un professeur d'histoire-géographie se fait égorger dans la rue parce qu'il a enseigné quelque chose à ses élèves, là, on n'a entendu personne. Donc, vous voyez, ces histoires-là, c'est quand même toujours deux poids, deux mesures.
Pour le coup, il y a quand même eu une minute de silence qui a été faite lors des matchs.
Il n'y a pas eu déclaration des footballeurs.
Parce qu'il n'y a pas eu de question des footballeurs. La question qui peut se poser aussi, c'est de savoir, est-ce que forcément sur la question du racisme, il va forcément y avoir des questions dans les conférences de presse sur la question de Samuel Paty. Alors, je peux en avoir raté, hein. Mais j'avais pas vu de questions qui portaient spécifiquement sur cet élément-là.
Je crois pas en avoir entendu non plus, mais pour le coup, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. La question aussi, c'est est-ce que c'est vraiment un footballeur qu'il faut poser ce genre de questions? Enfin, est-ce qu'on attend une prise de position de ce type-là d'un footballeur? Et surtout, à quoi il s'expose s'il est un peu entre deux dans sa réponse sans savoir exprimer réellement quelque chose comme n'importe qui, au fond, dont c'est pas la spécialité.
Enfin, je veux dire, et ils ont pas fait Sciences Po, ils ont pas forcément l'élocution, la culture.
Et ils ont
pour
totalement
le
droit.
Tout à fait. Mais ils sont parfois un peu gênés face aux caméras. Hein.
Une question. Eh oui. Eric, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Eric.
Eh ben, j'écoutais les personnes qui parlaient et je me disais, la grande question, c'est pourquoi devons-nous écouter ces footballeurs? Ces footballeurs qui sont aujourd'hui des gens très très riches, on le sait, mais qui, il y a encore 5 ans en arrière, étaient des gens de banlieue, des petits jeunes, des gens qui sont des gens de tous les jours. Donc, je pense que leur parole est la plus proche de la parole du peuple.
Donc il faut les écouter, non ou pas?
Bien sûr, je les écoute pas vraiment. J'ai 60 ans, donc j'ai ma propre opinion. Je parle des jeunes qui les écoutent. Oui, bien sûr, je trouve que c'est normal qu'ils les écoutent. Je trouve qu'il y a des choses qu'ils disent qui sont vraies. Alors, plein de choses aussi ne sont pas importantes, mais Griezmann, c'est important. Le genou à terre, peut-être pas. Pour nous Français, mais moi qui suis de double nationalité, c'est important. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut que ces jeunes-là puissent présenter, dire, et on les écoute, ceux qui veulent écoutent, ceux qui n'ont pas la même idée n'écoutent pas, mais ils ont une importance.
Merci Eric.
Ils ont une importance morale, ils ont une importance sportive, et ils ont une importance aussi dans leurs idées.
Est-ce qu'on sait, merci beaucoup Eric, alors c'est très très difficile évidemment à quantifier Carole Gomez, mais est-ce qu'on sait quel a été l'impact, ce que ça a déclenché, Griezmann est têtu, ou même le tweet là récemment sur le stade aux couleurs LGBT+, ou même la prise de position contre les Ouïghours, on a une idée de ce que ça déclenche?
Une prise de position politique, une prise de position diplomatique. Après, en termes de chiffres, pour le coup, sur la rupture du contrat avec Huawei et sur la couverture têtue, j'ai pas les chiffres en tête, donc je pourrais pas vous répondre. En revanche, ce qui va être intéressant à analyser, ça va être à l'issue de cet euro, que l'on sait encore long et donc riche en polémiques peut-être futures, il va être intéressant de voir aussi comment est-ce que les choses se traduisent dans les faits. Est-ce qu'il y aura un changement de politique? Est-ce qu'il y aura une amélioration, une aggravation d'un certain nombre de messages? Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit où il y a une cristallisation des tensions qui peut permettre de faire avancer un certain nombre de sujets, mais qui peut aussi peut-être avoir des retours, enfin des backlash, comme on dit en anglais, dont le terme français m'échappe.
Des retours de bâton, voilà. Je vous en prie, merci. C'est avec plaisir. Jacques, sur franceinter.fr, nous dit « Hormis le foot et le foot américain, que se passe-t-il du côté des rugbymen, des handballeurs? S'expriment-ils aussi ou tout simplement on n'en entend pas parler car ils sont moins médiatiques ?»
Oui, ce sont des cultures quand même qui sont moins universelles, qui sont moins importantes. Finalement, leur prise de parole, justement, a quand même beaucoup moins d'impact. Même si, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez quand même des rugbyman, enfin au moins un qui a fait son coming out. Donc, pour les handballeurs, là aussi, c'est quand même une culture très très européenne. Qui finalement ne suscite pas de très grandes envolées, hein, et de alors peut-être que si l'un des joueurs de l'équipe de France par exemple faisait son coming out là on en parlerait, mais pour le reste il me semble que c'est finalement le spectre médiatique de ces sports qui fait que ils prennent moins la parole.
Mais c'est fou comme le foot écrase tout, oui. Carole Gomez, parce que on sort de Roland Garros, on arrive vers Wimbledon, on pourrait imaginer des Nadal, des Djokovic, des Federer prendre un certain nombre de positions qui pourraient faire avancer certaines causes. J'ai l'impression que j'ai rien en tête en fait là tout de suite.
Alors pour le coup sur la question LGBT, ce qui avait aussi beaucoup permis de faire avancer un certain nombre de débats, c'était Amélie Mauresmo, il y a de ça quelques années. Récemment c'était Naomi Osaka lors du Roland Garros sur les questions de santé mentale et de l'importance de la santé mentale pour les sportifs de haut niveau, mais pas simplement. Donc oui, il serait intéressant de suivre avec ça, même si là encore, à mon sens, et c'était pour rebondir sur ce qui a t'es dit, il ne faut pas non plus que les sportifs se sentent obligés de prendre position sur absolument tous les sujets.
Absolument.
Parce que ben, on va pas nous demander à nous de faire une opération à cœur ouvert, tout simplement parce qu'on n'est pas formé à ça.
Absolument. Parler que de ce qui les concerne, de ce qu'ils ont à cœur, en tout cas, ce serait déjà beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment à tous, merci pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.